Acte 5. Premier tableau. Décor. Le cabinet du docteur Watson, dans sa maison de Kensington. Mobilier confortable et luxueux. Au fond, porte à deux battants, ouvrant sur le vestibule. À gauche, une porte communiquant avec la bibliothèque du docteur. Au fond, à gauche, une autre porte donnant sur le salon. Le bureau du docteur, à gauche, au milieu de la scène, est recouvert de fioles, de boîtes, de brochures, de livres, d'instruments, de tous les divers objets qui encombrent la table d'un médecin. Au milieu, au fond, la cheminée protégée par un paravent. À droite, un grand fauteuil d'opération avec un dossier, des coussins. Sur la partie droite du décor, un grand bow window garni de jardinières fleuries. Devant le bow window, une table sur laquelle est une lampe de médecin marchant à l'électricité. 6 heures du soir, lampes allumées. Scène 1. Le docteur Watson, John. Au lever de rideau, une cliente est accompagnée par Watson. Bruit de la porte du vestibule se refermant sur elle. Le docteur rentre, sonne et, en attendant la venue de son valet de chambre, compulse des papiers. John entre.
John, connaissez-vous la personne qui sort d'ici ?
Non, monsieur, et il me semble bien que c'est la première fois que je la vois.
C'est curieux. Elle m'a paru avoir de drôles de manières, et tandis que je la reconduisais, j'ai cru la voir jeter autour d'elle, dans le hall, un œil investigateur qui m'a étonné.
Monsieur ne se trompe pas, je l'avais remarqué aussi.
Il est possible d'ailleurs que ce regard n'ait nullement la signification que nous lui prêtons, et que cette pauvre femme soit la meilleure créature de la terre. Ah, John, y a-t-il d'autres personnes qui attendent ?
Un jeune homme dans le salon, monsieur, et c'est tout.
Watson, regardant sa montre.
C'est bon, je vais le voir. Mais s'il venait encore quelqu'un, priez de s'adresser à côté au docteur Harris. Je lui ai téléphoné à ce sujet. J'ai un rendez-vous avec monsieur Sherlock Holmes qu'il m'est impossible de manquer.
Très bien, monsieur. Alors, j'introduis la personne.
Oui.
John ouvre la porte du salon. Entre Bribe. John se retire. Scène 2. Watson, Bribe.
Bonsoir, docteur.
Bonsoir, monsieur. Veuillez vous asseoir.
Il désigne le fauteuil d'opération. Bribe, reculant craintivement et de la même voix enrouée.
Merci. Je ne suis pas fatigué.
Il s'avance doucement et s'assoit sur une chaise près du bureau.
Qu'est-ce qui vous amène ? D'où souffrez-vous ?
D'ici, docteur.
Il montre sa gorge.
J'ai peur d'avoir pincé un mauvais mal de gorge.
Nous allons voir ça.
Aïe, aïe, aïe. Il m'est impossible de rien avaler. J'ai essayé tout à l'heure d'un verre de gin pour cautériser. Eh bien, monsieur, c'est malheureux. Il n'a pas pu passer.
Watson se lève, prend quelques instruments et ajuste sur sa tête son réflecteur. Il tient de la main gauche une lampe et de la droite son abaisse-langue, qu'il trempe dans un verre d'eau avant de s'en servir.
Ayez la complaisance d'ouvrir la bouche aussi grande que vous pourrez.
Bribe ouvre une bouche énorme.
Comme ça, est-ce assez ?
Watson s'apprêtant à placer son instrument sur la langue du patient.
Oui, c'est bien.
Devant l'instrument qu'on vient lui introduire dans la bouche, Bribe a un mouvement de défiance.
Voilà.
Vous n'ayez pas peur. Dites « ah ».
Il place son mouchoir en tampon sur sa bouche, comme si l'effort qu'il vient de faire lui causait une vive douleur.
C'est blanc, n'est-ce pas ?
Non.
Ah, c'est rouge alors ?
Non plus.
Ah ben, quelle couleur est-ce donc ?
Mais d'une couleur tout à fait normale.
Diable, c'est plus grave.
Pourquoi ?
Si le mal ne se déclare pas, il sera plus difficile à guérir.
Voyons, d'où souffrez-vous exactement ?
Montrant avec son doigt.
D'ici, docteur !
Mettant son doigt dans sa bouche.
Tenez, là, là, à gauche.
C'est singulier, je ne vois rien.
Vous ne voyez rien, mais moi je sens, et je vous supplie de me faire une ordonnance qui me délivre de ma torture.
Ce n'est rien de sérieux. Il est même singulier que votre voix soit affectée à ce point. Enfin, je vais vous préparer un gargarisme. Cela ne peut pas vous faire de mal. Asseyez-vous là.
C'est ça, docteur. Un gargarisme. Un fort gargarisme.
Watson entre dans sa bibliothèque. Bribb le guette du coin de l'œil. Quand il est certain d'être bien seul, Bribb, tout en ne perdant pas de vue la porte, remonte vers celle du vestibule par laquelle il est entré et l'ouvre doucement. Il remonte ensuite vers la porte gauche qu'il ouvre. À ce moment, Watson rentre dans son cabinet, un papier à la main, et voit le jeu de scène de Bribb.
« Qu'est-ce que vous regardez là ?»«
Rien du tout, docteur. J'ai senti tout à l'heure un courant d'air qui m'arrivait justement dans la gorge. Alors, j'ai ouvert la porte pour voir d'où il venait. »
Watson va à son bureau et, sans mot dire, sonne. John entre.
John, reconduisez monsieur et regardez-le bien. Je n'y suis jamais pour lui quand il se présentera.
Mais docteur, vous ne comprenez pas.
Au contraire, je comprends à merveille.
Un courant d'air peut-être très mauvais pour ma gorge dans l'état où elle est.
Bonsoir, monsieur.
Par ici, s'il vous plaît.
Vous ne me donnez même pas mon ordonnance.
C'est inutile.
Bribb, que John a pris par le bras.
En voilà une façon de soigner ces malades. Si vous comptez sur moi pour vous envoyer des clients.
Qu'est-ce que c'est que cela, John ?
Je n'en sais rien, monsieur. On dirait un accident.
J'espère que ce n'est rien de grave. Mon mal mourra si ça me
On sonne et on frappe en même temps. Ce doit être un blessé pour lequel on réclame vos soins.
Blessé ou non, je ne reçois personne.
Regarde dans sa montre.
Je n'ai plus le temps.
Il range rapidement ses papiers.
Il faut que vous le receviez.
Où voulez-vous que nous partions ?
Puisque le docteur ne veut voir personne.
Vous ne pouvez pas laisser ce vieillard blessé dans la rue.
Vous avez une lanterne de médecin à votre porte. Vous êtes obligé de le recevoir.
John, revenons.
Il n'y a pas moyen de faire entendre raison à tout ce monde, monsieur. Ils amènent un vieux prêtre italien qui a été renversé par une voiture.
Ah, oh, le pauvre homme.
Watson, après une hésitation.
Eh bien, faites-le entrer.
Bien, monsieur.
Il sort. Watson, désignant la porte de gauche.
Monsieur, ayez la complaisance de passer par ici. La première porte à droite donne sur l'antichambre.
Mais si je pouvais être de quelque utilité...
Vos nerfs sont trop sensibles et je vous...
Il est interrompu par l'entrée d'un vieil abbé, cheveux blancs, habillé d'une soutane et d'une douillette, et soutenu d'un côté par John et de l'autre par le cocher du cab. Il boite comme si sa jambe était grièvement endommagée. Ses habits sont couverts de boue, son chapeau écrasé. Bribb s'est retiré sur la droite, derrière le bureau, et examine anxieusement le survenant. Scène 3. Les mêmes, un vieux prêtre italien, un cabman. Le vieux prêtre, d'une voix dolente et entrecoupée d'exclamations de douleur, chaque fois que son pied droit touche par terre.
« Aïe, oh que je souffre, piano, piano, je vous en supplie, pianissimo !»
Vous allez voir le docteur. Il vous remettra d'aplomb.
Asseyons-le sur ce fauteuil.
Diavolo, c'est le fauteuil d'opération, je veux pas.
Pour que le docteur vous donne un coup d'œil.
Comment l'accident s'est-il produit?
Ce n'est pas ma faute. Il a traversé juste au mauvais moment.
Ah, je vous reconnais. Vous êtes le cocher. Et je vais vous faire arrêter.
Arrêter? Moi? C'est vous qui m'arrêterez?
Non, non, c'est pas moi, mais je me plaindrai à mon ambassadeur.
Et à cause de quoi qu'on m'arrêtera?
À cause de votre maladresse. On n'a pas le droit de conduire dans un cheval quand on n'est pas même capable de conduire une âne.
Le cabman, essayant de le calmer.
Encore une fois, voulez-vous ne pas gigoter comme ça?
Gigoter? Je me plaindrai à mon ambassadeur.
Ah, j'en ai assez. J'ai mon cab à la porte et il faut que j'aie l'œil à mon cheval.
Amenez votre cheval ici. Je ne veux pas que vous sortez.
Il baragouine quelques mots en italien. Watson, au vieux prêtre.
Monsieur, si vous voulez bien vous tenir tranquille un moment, je vais regarder si vous êtes sérieusement blessé.
Il va vers la bibliothèque pour chercher un instrument. Brib, au moment où Watson sort, s'avance vers le vieux prêtre pour le regarder de près.
Je voudrais bien savoir au juste ce que c'est que ce curé-là, moi.
Après un coup d'œil, il relève la tête et se dirige vers la porte.
Comment, vous êtes encore là, vous ?
Brib lui fait un sourire et marche vers la porte. Rapidement, le vieux prêtre saute sur ses jambes et quand Brib arrive au seuil, il le trouve lui faisant face.
Vous nous quittez, mon jeune ami ?
Oui, ma gorge va mieux.
C'est pas à la gorge seulement que vous devez avoir mal.
Bah, où donc ça ?
Ben au poignet. Regardez Pluton.
Brib, instinctivement, tend les poignets pour les regarder. Au même instant, on entend le bruit de deux menottes d'acier dans lesquelles le vieux prêtre les a rapidement emprisonnées.
Là, maintenant, vous êtes guéri.
Sherlock Holmes.
Vous ? C'est vous ?
Holmes, ôtant sa perruque.
Parbleu.
Brib, prompte comme l'éclair, file par la porte du fond.
Malheur, l'homme s'échappe.
Je ne crois pas.
Il s'assit.
Ah, docteur, vous défendez de fumer à vos clients, mais vous ne vous en privez pas vous-même.
Il allume une cigarette. Le cabman, entrant, poussant devant lui Brib, attaché à une double chaîne que lui-même porte à son poignet.
L'oiseau est pris, monsieur.
Mon Dieu, mais c'est Foreman.
Holmes, il fait de la tête un signe affirmatif.
Oui, mon ami, c'est notre brave Foreman. Est-ce que l'inspecteur Bradley est là ?
Il vient d'arriver, monsieur.
C'est bien, Foreman. Conduisez-le, notre nouvel ami, et faites les présentations. Ces messieurs seront enchantés de se connaître. Mon cher monsieur Brib, si vous souffrez encore de la gorge, je vous recommande le médecin de la prison. Il est excellent.
Brib, en sortant.
Quand je disais que c'était le diable, cet homme-là.
Foreman l'emmène. Scène 4. Sherlock Holmes, Watson.
Comme vous vous en doutez par ce petit incident, Watson, les gredins que je poursuis me serrent de près. Vous voyez quel expédient je suis forcé de courir pour entrer chez vous sans être reconnu d'eux.
Il se débarrasse de sa soutane et apparaît habillé de ses vêtements ordinaires.
C'est qu'il y a déjà pas mal de gibier au tableau. 4 hier soir dans cette chambre du sommeil, 5 cet après-midi auquel il faut ajouter votre malade de tout à l'heure.
Ainsi, vous pensez que cet homme...
est un espion, dépêché ici pour indiquer par quelque signal si je me trouve chez vous. Par malheur, Moriarty nous échappe encore.
Où pensez-vous qu'il se cache ?
Ou dans l'endroit où on est toujours le plus en sûreté, au milieu de la rue, guettant l'occasion de supprimer la personnalité gênante.
Watson, tirant sa montre.
Au fait, vous savez que vous avez à peine 5 minutes.
Pourquoi faire ?
Avez-vous oublié votre rendez-vous avec le comte Stahlberg et le baron d'Altenheim ?
Ben, c'est ici qu'ils vont venir, si vous le permettez.
Assurément, mais pourquoi pas chez vous ?
La police, en ce moment, ne les laisserait pas traverser la foule qui entoure ma maison.
La foule ?
Oui, la foule, toujours friande du spectacle d'un incendie, de la manœuvre des échelles et de l'intrépidité de nos pompiers.
Que dites-vous ?
La vérité, mon cher Watson, ces gaillards-là pour me rabattre sur votre demeure ont mis le feu à ma maison.
Le feu ? Mais alors vos collections, vos dessins, tout est perdu ?
Mais tout est perdu. Au fond, j'en suis presque heureux. J'étais fatigué de tout cela. Je suis las de tout ce qui m'entoure. Mon métier même ne m'intéresse plus, et la dernière aventure de ma carrière va se dérouler ici, tout à l'heure.
Watson, le regardant avec stupeur.
Avouez-le, Holmes, c'est à cause de cette jeune fille, Miss Brent, que vous êtes là.
Holmes, se tournant vers le docteur.
Watson, elle s'est fiée à moi, malgré le danger que je courais. Ils étaient 4 à me traquer. Ils l'ont appelée, lui promettant la vie sauve si elle venait à eux. Elle a refusé. Je lui ai dit, « Ne me quittez pas. » Elle a obéi. Elle s'est blottie contre moi, sa main crispée dans la mienne. Dans un moment, elle sera ici, n'est-ce pas? Eh bien, je l'espère et je le redoute en même temps.
Mon cher Holmes, j'ai peur que votre désir de gagner la confiance de cette jeune fille ne vous ait entraîné plus loin peut-être qu'il n'aurait fallu.
Plus loin? Ah oui, c'est possible.
Mais si vous l'aimez, si elle vous aime...
Taisez-vous, Hudson, ne prononcez pas ce mot. Ne me tentez pas. Non, si par hasard elle était tentée de m'aimer, ce que je ne veux pas croire, je dois la guérir, et je la guérirai.
Viendra-t-elle seule?
Thérèse l'accompagne. Alors arrivez, faites que Miss Brent attende dans ce salon-là à côté. C'est possible, n'est-ce pas?
Certainement.
Je désire que la porte reste ouverte, de façon à ce qu'elle entende la comédie que je vais jouer tout à l'heure à ces messieurs.
Comment?
J'en suis honteux, Watson. Ah, si je n'avais pas donné ma parole à ces hommes.
On a sonné.
Ce doit être elle. Je monte dans votre chambre, mettre un peu de correction dans ma tenue. À tout à l'heure.
Scène 5. Watson, John, puis Alice Brent.
C'est une jeune dame avec sa femme de chambre, monsieur, qui désirerait vous parler.
Introduisez-la. Le comte Stahlberg et le baron d'Altenheim vont venir aussi. Vous les ferez entrer tout de suite.
Bien, monsieur.
Je n'y suis pour personne d'autre, hein, vous entendez?
Oui, monsieur.
Il va à la porte et introduit Alice Brent. Celle-ci jette un regard d'inquiétude autour d'elle, comme si elle craignait de rencontrer Holmes. En voyant Watson seul, elle pousse un soupir de réconfort et va vers lui.
Je suis bien chez le docteur Watson?
Oui, mademoiselle, et c'est lui qui a l'honneur de vous recevoir.
Voudriez-vous avoir la bonté de me dire si Monsieur Holmes, Monsieur Sherlock Holmes est ici?
Il est monté chez moi pour un moment, Miss...
Miss Brent. Et il va redescendre?
Dans quelques minutes, car il a rendez-vous avec deux messieurs, et je dois l'avertir dès leur arrivée.
Pensez-vous que, sans vous déranger, je pourrais attendre la fin de cet entretien et voir Monsieur Holmes quand il aura terminé avec ces messieurs?
Certainement.
Je vous remercie. Je suppose que vous devez avoir, à côté de votre cabinet, un salon d'attente.
Watson, montrant la porte.
Parfaitement, ici. Personne ne vous dérangera.
Encore merci.
Je crois que voici les visiteurs que notre ami attend.
Alice, se dirigeant vers le salon.
C'est bien convenu, n'est-ce pas? Lorsqu'ils partiront, vous me ferez prévenir.
Je vous préviendrai moi-même.
Vous êtes trop bon.
Elle sort à droite. Scène 6. Watson, le comte Stahlberg, le baron d'Altenheim. John entrant.
Monsieur le comte Stahlberg, monsieur le baron d'Altenheim.
Il sort. Watson allant à leur rencontre.
Messieurs, j'ai l'honneur de vous saluer.
Le docteur Watson, je crois.
Lui-même.
Le comte salue légèrement.
Votre serviteur, docteur. Nous avions rendez-vous avec Monsieur Sherlock Holmes. Mes amis nous ont prévenu que cette entrevue aurait lieu chez vous.
C'est exact, monsieur le baron. Veuillez vous asseoir, messieurs.
Il me semble que Monsieur Sherlock Holmes est en retard.
Non, monsieur le comte, il est arrivé déjà depuis quelque temps et je l'entends qui descend l'escalier.
Parfait.
Scène 7. Les mêmes Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est pâle. Le désordre de sa coiffure et de ses vêtements est réparé. Les deux étrangers se lèvent et le saluent. Holmes, d'une voix très nette, très calme, mais dans laquelle on devine quelque arrière-pensée.
Messieurs, obéissez, restez assis, je vous prie.
Les deux hommes se rassoient. Holmes est debout près du fauteuil. Il reste un moment silencieux, puis commence à parler, l'œil fixé dans le vide.
L'affaire qui nous réunit ici sera, je crois, promptement réglée. Je vous ai prié de venir ici afin de remettre entre vos mains le paquet de lettres en possession duquel vous m'avez chargé de rentrer au nom de la très haute personnalité que vous représentez. »
À ces mots, les deux diplomates s'inclinent légèrement.
« Laissez-moi vous dire que si je ne vous avais pas engagé ma parole, j'aurais renoncé à la tâche que j'avais assumée. Mais les affaires sont les affaires. Celle-ci, heureusement, est terminée. Et voici les documents. »
Il leur tend le paquet acheté à Orlebar.
« Oh, permettez-nous avant tout de vous féliciter, Monsieur Holmes, de l'habileté que vous avez déployée et de la rapidité étonnante avec laquelle vous avez rempli les clauses de notre contrat. »
Holmes salue légèrement et s'éloigne de quelques pas dans la direction du bureau. Le comte brise le sceau du paquet et en regarde le contenu. Il semble témoigner quelques surprises en examinant une ou deux lettres. Il les regarde de plus près, puis se dirige vers le baron, à l'oreille duquel il murmure quelque chose, et tous deux considèrent les papiers avec une expression de désappointement et de surprise.
« Mais non, non, c'est une mystification. »«
Ce n'est pas là, en effet, ce que nous attendons. »
Holmes se tourne la tête de son côté et le regarde en semblant un peu étonné.
« Non, puis-je vous demander, monsieur Holmes, comment vous êtes procuré ces documents ?»« C'est bien simple, je les ai achetés. »« Achetés ? » ?»« Vous vous intéressez sur le consentement express de Miss Brent. » »«
Eh bien, monsieur, on vous a trompé. »
Holmes, semblant très surpris.
« Que dites-vous ? Mais ce paquet que vous venez de nous remettre ne contient rien. Pas une seule lettre, pas un des papiers qui nous tiennent tant au cœur. Ceux-ci ne sont que des imitations grossières, sans portée. Les photographies même ne sont pas celles qui nous intéressent. »
« On vous a berné. Oui, malgré toute votre habileté, monsieur Holmes. » Vous avez été joué comme un enfant.
Est-ce possible? Oh, ce que vous me dites me confond, me désole.
Il tombe accablé.
Cet amendement, monsieur Holmes, signifie-t-il que vous renoncez à la lutte? Que vous croyez impossible de reconquérir ces documents?
C'est malheureusement exact.
Après l'affirmation que vous nous avez donnée, après l'engagement formel que vous avez pris de réussir, ce serait là une faillite indigne de vous. Vous ne pouvez rester sur un échec qui ruinerait à la fois notre crédit, votre honneur et votre réputation. »
Alice apparut à la porte du fond et écoute.
« Je vous répète que je suis désespéré. Il est trop tard. Toute espérance de remettre la main sur le véritable papier serait illusoire. »
« Mais c'est plus qu'une faute, monsieur, que vous avez commise. Vous n'aviez pas le droit de nous égarer, de nous tromper ainsi. Nous entendons vous rendre responsable de toutes les conséquences de votre légèreté. Si nous ne pouvons obtenir légalement une réparation, il nous reste au moins la possibilité de démasquer votre ignorance et votre incapacité. »
« Je suis confondu, messieurs, et je courbe la tête sous vos reproches. « Oui, oui, je le vois, je comprends, je suis perdu. Oh, je suis déshonoré !»
Scène 8. Les mêmes, Alice. Alice faisant quelques pas et intervenant.
« Non, messieurs, Sherlock Holmes n'est ni ruiné, ni déshonoré. Car c'est à lui seul, à lui uniquement, vous l'entendez, que vous devez d'avoir recouvré ces papiers qui sont pour vous si précieux. Et que voici. »
Holmes se lève et d'un geste de la main gauche arrête la jeune fille.
« Un instant !»
Il prend le paquet des mains d'Alice, sur le visage de laquelle se peint un profond étonnement. Il tire sa montre de sa poche, y jette un regard et, se retournant vers les deux diplomates, d'une voix totalement différente de celle qu'il avait un instant plus tôt, mais évitant le regard d'Alice,
« Messieurs, ma lettre de ce matin vous avisait que le paquet en question serait remis entre vos mains à 7h15. Il est à ma montre 7h14, et voici les documents. Ce que je vous ai remis tout à l'heure n'était en effet qu'une grossière contrefaçon. »
Holmes tourne légèrement la tête du côté d'Alice qui paraît glacée de stupéfaction. Elle s'écarte de quelques pas par un mouvement presque involontaire.
« Colossal, merveilleux, le stratagème est admirable. »
« Nous saisissons votre manœuvre, monsieur Holmes. Vous êtes plus qu'un détective, vous êtes un diplomate. » Eh bien non, je ne peux pas, non, non. Oh, ce piège est indigne de moi. Tenez, Miss Brandrop, prenez ce paquet de lettres. Emportez-le, ne le donnez pas, ne le donnez jamais. Et pardonnez-moi. Vous vous opposez à ce qu'on nous le rende ?
Le comte, indigné.
Après ce qui vient de se passer ?
Après ce qui vient de se passer, à cause de ce qui vient de se passer.
Descendant en scène.
Perdez-moi, faites ce que vous voudrez. Tout m'est égal, Watson. Reconduisez ces messieurs.
Geste du comte et du baron.
Mais pourtant...
Alice s'interposant.
Un moment. Je vous répète, messieurs, que voici vos lettres.
Non.
Je veux les rendre. Je me souviens des mots que vous m'avez dit. Quelle que soit ma façon de frapper le coupable, la victime n'en peut recevoir aucune satisfaction. Ce ne serait pas elle qui se vengerait, c'est moi. Vous avez raison, monsieur Holmes. Voici, monsieur.
Nous vous sommes profondément reconnaissants, Miss Brent. Merci à vous aussi, monsieur Holmes, car qui sait, ce qui vient de se passer est peut-être encore un de vos tours. Il ne vous reste plus qu'à nous faire savoir le prix auquel vous estimez vos services. Quel qu'il soit, il ne paraîtra pas trop élevé.
Alice, à ces mots, lève la tête et fronce le sourcil.
Mademoiselle, nous avons l'honneur de vous présenter nos respectueux hommages. Bonsoir et merci de votre obligeance, docteur Watson.
Ils remontent tous deux, reconduits par Watson. Scène 9. Holmes, Alice. Holmes, depuis un moment, regarde Alice avec des yeux où se lit une muette tendresse, puis, comme la jeune fille se tourne vers lui, il marche vers elle, parlant rapidement, la tête baissée sans la regarder.
Miss Brent, vous devez vous rendre compte de la série de stratagèmes que j'ai dû employer pour arriver au résultat que je viens d'obtenir. Le premier soir où je vous ai vu, je ne pouvais pas emporter ces lettres, c'était un vol. C'est pour cela que j'ai eu recours au tour cruel et je dois le confesser assez lâche. Tu vous as décidé à renoncer de vous-même à ces documents.
Alice, allant à lui.
Et notre rencontre d'hier soir était-ce aussi un de vos tours? Jouiez-vous une comédie en risquant la mort?
Ne me fallait-il pas acheter le faux paquet de lettres pour m'en servir comme je viens de le faire? J'exerçais ma profession. Elle me passionne tant que, vous l'avez vu, je lui sacrifierai tout, tout, même la sympathie que vous avez peut-être cru voir en moi pour vous n'était qu'un prétexte, une feinte. Encore une comédie, une de mes ruses. Et maintenant, oui, que tout cela est bien clair pour vous, que... Vous savez quel homme je suis, Miss Brent. Il me semble que nous n'avons plus rien à nous dire, sinon adieu.
Je ne vous crois pas.
Leurs regards se croisent.
Mais qui peut vous faire ?
Tout. Votre voix, votre accent, votre regard. Vous avez voulu arracher de mon cœur un sentiment que vous saviez, que vous sentiez l'envahir. Vous n'y avez pas réussi. Et je vous le répète, monsieur Holmes, je ne vous crois pas.
Holmes, emporté par un élan auquel il ne peut plus résister.
Vous avez tort, Miss Brent. Ce que vous supposez est impossible.
Alice, sans le regarder en face, se rapproche insensiblement de lui.
Un homme comme moi n'a pas le droit de concevoir certains rêves. Être quelque chose dans votre vie, moi, mais rien que cette pensée est une folie. Regardez-vous et regardez-moi. Je suis vieux, usé, fini. Vous partagez mon existence de policier. Oh, laissez-moi, Miss Brent, je veux...
Pendant ces dernières paroles, Alice, sans mot dire, met tout doucement sa main sur la bouche de Holmes. Celui-ci, saisi d'une émotion suprême, cesse de parler. Leurs yeux échangent un regard d'une suprême éloquence. D'un mouvement irraisonné, le bras gauche de Holmes enlace la taille de la jeune fille, tandis que sa main droite a pris la main d'Alice et la porte à ses lèvres. Puis, la tête perdue, il l'étreint brusquement et l'embrasse sur les lèvres. Watson rentre. Scène 10. Les mêmes Watson. Watson souriant.
Eh bien, malgré votre terreur du mariage, il me semble bien que voilà qui s'appelle un baiser de fiançailles, mon cher Holmes.
Holmes à Alice.
Consentez donc vraiment ?
Dame, maintenant ?
Maintenant, Miss Brent, comme je tiens à servir de témoin à votre mariage, laissez-moi vous donner un conseil.
Lequel ?
C'est de partir ce soir même. Il y a un train de nuit pour la France à 10h20. Un mot de votre mère pour qu'elle vous accompagne, et demain, à Paris, nous retrouverons Mistress Watson, qui sera ravie de faire votre connaissance.
Quitter Londres sans avoir payé ma dette au professeur Moriarty ?
Que vous importe désormais Moriarty, cet homme qui vous a manqué hier a soif de prendre sur vous une revanche.
Précisément, je tiens à voyager tranquille.
Écoutez, mon ami, à l'instant, en reconduisant ces messieurs, j'ai aperçu, embusquée dans un cab, une femme qui semblait examiner cette maison et dont l'allure suspecte m'a frappé.
Où est cette femme ?
Là, au coin de la rue, vous pouvez la voir d'ici, en soulevant le rideau avec précaution. Suivez mon conseil, Miss Brent, prévenez madame votre mère et sautez en wagon tous les trois. Eh bien, la connaissez-vous, cette guetteuse ?
Est-ce que je ne connais pas tout le monde ? Miss Brent !
Sortant sa montre.
Il est 8h. Je vous rejoindrai ici dans 1 heure pour aller prendre le train à la gare de Victoria. Et qui sait, j'aurai peut-être le temps d'ici là d'en finir avec cet excellent monsieur Moriarty.
Rideau.